C'est l'heure des informations de la mi-journée avec Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour à tous et à toutes. Des dizaines de voiles déployées sur la mer en route vers Gaza. Une nouvelle flottille part aujourd'hui de plusieurs ports européens. La militante Greta Thunberg en fait partie. Vladimir Poutine, le Premier ministre indien ou encore le président nord-coréen attendu en Chine ce week-end pour un sommet réunissant 20 chefs d'État asiatiques et européens. En France, rentrée politique de tous bords, cette fois-ci autour de Gérald Darmanin. Cet après-midi, le ministre de la Justice se rend à Tourcoing. Et puis, clap de fin pour les universités d'été du Parti Socialiste à Blois. Que peut-on en retenir? Coup médiatique ou retour d'une gauche puissante? Nous en débattrons avec l'invité de ce journal, Frédéric Savicky, professeur à l'Université Paris 1 et chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. La plus grande opération humanitaire pour Gaza, voici comment les activistes appellent cette gigantesque initiative internationale. Des dizaines de bateaux chargés de médicaments et de vivres vont partir pour Gaza quelques mois après la tentative ratée du bateau Madeleine arrêté par l'armée israélienne. Greta Thunberg revient avec un plus grand collectif, le Global Sumud Flotilla, qui réunit des personnes de 44 pays. Certains partent aujourd'hui de France et d'Espagne, mais Rosalia MacArthur, les passagers déterminés à atteindre Gaza ne se font pas d'illusions.
Les militants le savent, leurs bateaux ont très peu de chances d'atteindre Gaza et même s'ils y parvenaient, l'aide médicale et alimentaire qu'ils transportent ne suffirait pas à nourrir le 500 000 de Gazaouis rongés par la famine.
Notre but, c'est pas de nourrir la population, on peut pas le faire avec les bateaux.
Samuel Cretenan, militant suisse, est l'un des coordinateurs de la Global Sumud Flotilla.
Nous, ce qu'on essaye, c'est d'ouvrir un corridor humanitaire pour que, après nos différentes vagues de bateaux, puissent suivre des cargos qui déchargent des tonnes de nourriture.
Leur objectif est donc de faire pression pour rompre le blocus de Gaza.
Ce n'est pas un acte médiatique. On est là-bas pour remplir un devoir de citoyen et pallier à ce que nos gouvernements occidentaux ne font pas.
Ces derniers mois, deux autres navires de la flottille pour la liberté, le Madeleine et le Andala, ont déjà tenté de rejoindre l'enclave palestinienne. Sans succès, Israël les a interceptés en amont.
Il faut se rappeler que ces bateaux ont été interceptés dans des eaux internationales. Donc en fait, c'est des actes de piraterie. Si on est arrêté, on sera arrêté. Ça, c'est la responsabilité d'Israël. On est déterminé à aller à Gaza.
Cette fois encore, des militants, mais aussi des célébrités embarquent. Plus de 32 000 volontaires ont demandé à rejoindre la Global Sumud Flotilla, le mouvement qui promet de continuer à faire des vagues tout le mois de septembre.
En septembre, où d'autres bateaux partiront de ports méditerranéens, notamment le 4 depuis la Tunisie. À Gaza, 18 personnes sont mortes ce matin, dont 13 qui cherchaient à obtenir de la nourriture ce dimanche. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit réunir son cabinet de sécurité pour évoquer la prise de contrôle et d'évacuation de la ville de Gaza. Opération d'évacuation qualifiée d'irréalisable par la dirigeante de la Croix-Rouge hier. L'armée israélienne qui a également frappé le sud Liban ce matin, visant des infrastructures militaires du Hezbollah. Les frappes ont provoqué des dégâts sur les habitations et les commerces. Wir schaffen das, nous y arriverons. 10 ans pour cette célèbre phrase prononcée par Angela Merkel le 31 août 2015 pour l'accueil en Allemagne de milliers de réfugiés syriens, afghans et irakiens. Trois mots qui ont marqué profondément la politique migratoire européenne. Alors aujourd'hui, quel bilan pour l'intégration de ces migrants? Notre correspondante en Allemagne, Nathalie Versu, a rencontré l'un de ces réfugiés syriens à Berlin.
Simon Altman avait rendez-vous dans son café-pâtisserie préféré de Berlin, sur la Sonnenallee. Le jeune homme commande un café bien serré à la cardamone, spécialité de la maison. Son arrivée en Allemagne, il s'en souvient comme si c'était hier.
Nous avons traversé la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, puis l'Allemagne, la Bavière et Munich, oui. Mais c'était l'époque de la Willkommenkultur, c'était encore bien.
Simon voulait aller à Hanovre où vit sa tante. Il atterrira à Berlin où sa fiancée le rejoint. Coiffeuse de formation, c'est elle qui fait vivre le couple. Aujourd'hui, tous deux ont la nationalité allemande. 10 ans plus tard, comment se sentent-ils en Allemagne?
Notre situation financière est bonne, oui, mais pour nous, l'environnement s'est dégradé. Je n'ai plus l'impression d'être le bienvenu en Allemagne. Même si on a un passeport allemand, on se sent comme des étrangers dans ce pays. paix.
Aux dernières élections, Simon Alotman a voté par nostalgie de temps meilleur pour la CDU, le parti d'Angela Merkel et du Wirtschaftsbund.
Et en 10 ans, l'Allemagne a accueilli entre 2 et 3 millions de réfugiés, dont près d'1 million d'Ukrainiens. La Chine, au sommet de la diplomatie ce week-end, reçoit 20 chefs d'État à Tianjin, au nord du pays. C'est là que se tient le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Un sommet soigneusement organisé par la Chine pour exhiber son influence grandissante.
Oui, c'est ça, une influence particulièrement visible depuis hier après-midi. Il suffit de regarder les arrivées d'avions qui se sont succédés dans la mégalopole portuaire de Tianjin. Vladimir Poutine, suivi du président iranien ou encore du premier ministre turc. Tout cela a été retransmis en direct par la télévision d'État. Et avec la présence remarquée aussi de Narendra Modi, le premier ministre indien, qui vient ici pour la première fois depuis 7 ans. Une belle photo donc pour la Chine, qui réussit à rassembler à Tianjin les dirigeants d'une 20aine de pays, représentant près de la moitié de la population mondiale. Occasion rêvée pour Xi Jinping pour promouvoir son idée de nouvel ordre mondial, le multilatéralisme à la chinoise, sans l'hégémonie des Occidentaux et des États-Unis, et avec à la place, ce n'est pas forcément dit clairement, mais un rôle central pour la Chine.
Ce sommet, c'est aussi le début d'une séquence diplomatique inédite pour le régime chinois qui va se poursuivre jusqu'à mercredi. La rentrée politique ce week-end, université d'été du parti Horizon dans le Val-de-Marne, celle des socialistes dans le Loir-et-Cher, visite de la foire de Châlons en Champagne pour Jordan Bardella du Rassemblement National. Et puis Gérald Darmanin qui s'est réuni aujourd'hui ses soutiens à Tourcoing dans le Nord, 1200 personnes réunies pour le ministre de la Justice qui a des ambitions pour la présidentielle. Mais Stéphane Robert, pourquoi pas aussi pour le poste de Premier ministre ?
Aucun ministre ne se fait d'illusions sur l'issue du vote de confiance que François Bayrou sollicitera le 8 septembre à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, comme les autres, est quasiment certain que le gouvernement sera renversé. Mais pour celui qui est encore ministre de la Justice, ça change beaucoup de choses. Car avant la présidentielle de 2027, qu'il prépare activement et en direction de laquelle il s'apprêtait à lancer ses premières offensives médiatiques depuis sa ville de Tourcoing, il y a désormais possiblement Matignon. En tout cas, le croit-il, et ses proches également, qui ne manquent pas de signaler que Gérald Darmanin n'est pas en campagne pour devenir Premier ministre. Bah non, ce ne serait pas décent, le cadavre de François Bayrou bouge encore. Mais ils y pensent très fort, et le ministre de la Justice également, comme il y a 2 ans, au début de l'été 2023, quand il avait failli remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Parce qu'avoir été Premier ministre, ça vous pose là un homme politique. Ça fait de lui un potentiel présidentiable, comme ce fut le cas pour Édouard Philippe. Et donc Gérald Darmanin fait campagne sans le dire, via ses proches, qui rappellent aux journalistes qu'il est un fidèle du président, l'un des rares sur qui le chef de l'État peut s'appuyer en toute confiance. Ce dimanche, Gérald Darmanin va donc rappeler qu'il est là, qu'il est prêt, à toute éventualité, si jamais on avait besoin de lui.
Nous parlions à l'instant de la rentrée politique et notamment celle du Parti Socialiste à Blois. 3 jours d'université d'été qui se sont conclus hier, durant lequel le PS a affiché sa volonté de gouverner, allant jusqu'à proposer un Premier ministre socialiste à Emmanuel Macron, si François Bayrou devait partir. Olivier Faure a aussi présenté des contre-propositions ambitieuses au budget 2026. Pour en parler, nous recevons ce midi Frédéric Savicky, professeur à l'Université Paris 1 et chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Bonjour Monsieur Savicky.
Bonjour.
Alors on le sait, le Parti Socialiste a connu un déclin sévère avec la présidentielle de 2017, celle de 2022 aussi, à peine 2% au premier tour. Est-ce que ces annonces et ces universités d'été marquent selon vous un vrai tournant pour le Parti Socialiste ou est-ce que c'est un simple sursaut médiatique ?
Bon, il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais disons que là où on peut voir effectivement un tournant par rapport à ce qui s'est passé au cours de l'année qui a suivi la dissolution, c'est que le Parti Socialiste s'affirme ou se réaffirme comme un parti qui est prêt à gouverner, à prendre ses responsabilités et qui affiche pour ça une position, on pourrait dire, assez audacieuse, puisqu'il fait des contre-propositions à celles qui ont été énoncées par François Bayrou, une réduction de 40 milliards de dépenses, face auxquelles le Parti Socialiste dit, bon, il faut faire une réduction beaucoup moins importante au risque de mettre en cause la croissance et les services publics. Et en revanche, le PS, on pourrait dire, se marque à gauche en annonçant qu'il y aura bien des réductions, mais qu'elles devront être largement prises en charge par ceux qui ont le plus bénéficié, finalement, des politiques publiques qui ont été menées depuis 2017. Donc, voilà, il y a à la fois responsabilité d'un côté et puis marqueur à gauche.
Ces propositions, c'est plutôt le retour du Parti Socialiste, social-démocrate traditionnel, ou c'est une rupture pour essayer de reconquérir un électorat politique à gauche ?
C'est pas une rupture dans la mesure où quand même clairement étape par étape depuis 2017 le Parti Socialiste, en acceptant notamment en 2022 un premier accord dit de la NUPES, puis ensuite en 2024 de nouveaux Front Populaire communs avec l'ensemble des forces de gauche, accepter quand même clairement, on pourrait dire, de remettre en cause la politique qui avait été menée entre 2012 et 2017 sous François Hollande. Donc c'est un parti qui s'est progressivement, très largement, on pourrait dire, repositionné à gauche. Alors le marqueur principal étant la position sur la réforme des retraites, où le PS est prêt à remettre en cause la réforme qui a été passée au forceps par le gouvernement précédent et pour la réforme donc. Un retour à l'âge de 62 ans. Il y a aussi, effectivement, clairement des positions qui sont prises pour remettre en cause la politique de l'offre. Par exemple, là, parmi les mesures d'économie, on est prêt à remettre en cause le crédit d'impôt recherche qui finance abondamment et de façon assez généreuse les politiques des entreprises. Donc, il y a, j'allais dire, c'est pas nouveau, hein, c'est le point d'orgue d'une évolution qui est déjà ancienne, me semble-t-il.
Et vous en parliez, le nouveau Front Populaire paraît là aujourd'hui bel et bien enterré, que ce soit côté PS comme chez les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon a clairement dit ce week-end qu'il ne se rallierait pas au Parti Socialiste ni à aucun autre parti de gauche. Alors sans la France Insoumise, est-ce que la gauche n'est pas vouée à l'échec ?
Alors c'est le problème évidemment qui se pose au Parti Socialiste en priorité, mais aussi à toutes les autres forces de gauche. C'est le poids important qu'a pris Jean-Luc Mélenchon grâce à l'élection présidentielle, qui a quand même été contrebalancé par les dernières élections européennes, où le rapport de force s'est rééquilibré, qui est aussi contrebalancé par le fait que encore aujourd'hui, sur le terrain, si on peut dire, dans les collectivités territoriales, dans les régions, les départements, les mairies, les Insoumis pèsent très très peu. Donc il y a ce hiatus et cette lutte permanente maintenant depuis 2017 et depuis 2022 pour savoir qui à gauche au fond a le leadership. Mais plus personne n'a le leadership et tant que évidemment certains pensent qu'ils ont plus de chances, comme c'est le cas de la France Insoumise, de l'emporter sur les autres grâce à l'élection présidentielle, bah, toute la stratégie elle est focalisée autour de cette élection et donc il y a un refus d'accepter la responsabilité de gouverner. Il y a aussi un refus de jouer le jeu de l'union, on le voit pour les élections municipales.
Et c'est, alors, vous parliez de leadership, on a les unitaires de gauche, avec notamment cette figure Marine Tondelier des Verts, François Ruffin, Raphaël Glucksmann et Lucie Castet. Ils étaient présents au parti, aux universités d'été du Parti Socialiste. Qui pourrait, justement, capable de porter le leadership ?
Là, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même eu, ces derniers temps, un certain nombre de progrès qui ont été faits en dehors de la France Insoumise, entre les personnes que vous avez, les représentants que vous avez cités, c'est-à-dire notamment un travail en commun pour élaborer une procédure de sélection du candidat ou de la candidate à l'élection présidentielle. Ça me semble quand même très important, c'est-à-dire que il y a un projet de primaire qui soit pas restreint, on pourrait dire, à un seul parti, mais qui soit ouvert à tous ceux qui le souhaitent à gauche. Donc ça va plutôt dans le sens d'un rapprochement. Il y a aussi, alors là, peut-être des progrès à faire, évidemment, et c'est d'ailleurs ce qui est reproché au Parti Socialiste dans son projet de budget par les autres forces que vous avez mentionnées, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un programme commun, des propositions communes, et ça ne peut pas être simplement à l'initiative d'un seul parti. Et donc, là où le Parti Socialiste, j'allais dire, a encore beaucoup de travail à faire, c'est pas tant, finalement, à se démarquer de la France Insoumise, mais d'essayer de convaincre et de rassembler les autres forces de gauche de s'engager derrière un programme commun dans les échéances prochaines qui sont l'élection municipale mais aussi l'élection présidentielle.
Merci beaucoup Frédéric Savicky d'être venu dans les studios de France Culture ce midi pour commenter cette rentrée politique. Je le rappelle, vous êtes professeur des universités à Paris 1 et chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politique. La météo de cet après-midi, pluie sur une large partie du pays. Température entre 19 et 27 degrés, risque d'orage pour 8 départements placés en vigilance orange entre le Gard et Lyon. 2 également risque inondation, l'Ardèche et le Gard. Fin de ce journal préparé avec Alison Vikropvec, à la technique Paul Guigues.